Tiens, ça là, tu vois, ça c'est des natures mortes, tout à fait au début. J'étais pas encore entrée aux Beaux-Arts.
Et c'est vers 1958 que tu es passé de la figuration à l'abstrait.
L'abstrait, j'étais surprise moi-même par mon premier tableau abstrait que j'ai fait, absolument sans me rendre compte. Hein, j'étais en train de faire des fleurs, je me souviens, chez Goethe, je crois que c'était, oui, chez Goethe. Et puis, bon, je voyais les lignes, le rythme, j'essayais d'inclure le rythme du tableau. Et puis, je suis retrouvée dans
Puis ça
un.
donnait ce tableau-là.
Ça donnait ce tableau, oui. J'étais toute surprise. Et là, c'était comme une espèce d'ouverture, de liberté. J'étais. C'est formidable, hein, cette possibilité qui se voit devant moi. Finalement, je commençais à avoir ma propre. J'essayais plus de m'enfermer dans ce que je voyais en face, c'est-à-dire le bouquet, le visage, hein, tenu par les proportions, par le rythme, par la construction. Non, non, je cassais tout ça. Et c'est moi qui faisais mon propre.
Avec le recul que tu as aujourd'hui, en revoyant ces quelques toiles, est-ce que tu as le sentiment que ce passage du figuratif à l'abstrait constitue le vrai commencement de ton œuvre?
Le commencement, c'est difficile. Commencement, où est-ce que ça a commencé? Avec la lecture, avec la danse. J'ai fait tout ça et. Je crois qu'on ne peut pas voir ça comme ça. Enfin, le commencement, c'est. N'est pas extérieur, enfin c'est pas un déroulement dans le temps, mais c'est le commencement, c'est le point de départ, c'est en moi, ça part de moi, donc c'est toujours le commencement. Bien sûr, le commencement. Bon, bien sûr, il y a eu le figuratif.
Pratiquement à partir de 1958, ta peinture n'est plus du tout figurative. Et en 1958, ta participation à la première Biennale de Paris témoigne d'une indépendance très vive vis-à-vis de cette tradition parisienne dans le cadre de laquelle tu avais étudié jusque-là. C'est un peu comme si l'expérience des ateliers t'avait amené à prendre conscience de ce que tu ne voulais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans une attitude de refus que ta pensée picturale prend vraiment corps?
Non, ces tableaux de Lotte, quand j'étais chez Lotte. C'est amusant parce que. Je me rappelle, c'est la première fois, le premier tableau que j'ai fait chez Lotte. Il m'avait dit. Il engueulait tout le monde, tu sais, il disait personne ne sait travailler. Et puis, il était venu, il a dit qui est-ce qui a fait ça? Et moi j'étais toute tremblante, c'est la première fois que j'allais. Et il me dit, ah ben on fera des bonnes choses ensemble. Et c'est marrant parce que les autres me regardaient avec une espèce d'envie. Et moi je crois que déjà là, il y avait ça en moi, ce besoin de casser. De casser Mais vraiment un besoin intérieur, tu vois. Je ne suis pas restée longtemps, quoi. J'avais besoin d'aller plus loin, d'aller plus loin. Ah, bien sûr, il y a. Extérieurement, on a l'impression, tu vois, que je n'achevais pas. Si tu veux. D'ailleurs, il y a presque aucun tableau achevé. Enfin, je n'ai jamais achevé un tableau. Dans toutes ces études que tu vois là, il n'y a pas un truc achevé. Une fois que je commençais à voir ce qui m'intéressait, bon, ben, ça va. Ah, petite finition pour dire ah, voilà, j'ai fait un tableau, ça non, ça me. Alors, c'est peut-être. Ça aussi, on a cette impression d'inachèvement que tu. Toi-même, tu avais remarqué. La première, enfin, la première chose qui t'avait frappé, c'était ça, hein, un tableau inachevé. Mais c'est. Je crois que le besoin impérieux, c'est toujours d'approfondir, de pousser. Oui, c'était inconscient et même, oui, regarde, je me rappelle déjà, ce que je ne pouvais pas supporter, c'est d'être obligé d'avoir des règles, par exemple. Hein? Je me souviens, mes premières expériences en peinture. J'avais un professeur aux Beaux-Arts qui m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas être où c'était la ligne, où c'était la couleur. Sinon, c'était pompier. On ne pouvait pas faire les deux. C'est une chose qui m'a. Tu vois, qui m'intriguait, que je ne pouvais pas admettre. Pourquoi? Pourquoi ces règles? Tu vois, Et même plus tard, après. Dans les rouges et noirs, au fond, où tu trouves des toiles qui sont géométriques et où il y a encore le gestuel, quoi. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on. Je me souviens, je l'avais montré à quelqu'un qui m'avait dit, ah ben tu ne peux pas faire les deux choses. Enfin, mais pourquoi? Pourquoi être enfermé dans les. Se laisser enfermer? Moi, je ne peux pas. Ça, c'est viscéral. Je peux pas me sentir enfermée dans. Au fond, tout est possible. Tout doit être possible. C'est ça qui est. Si tu t'enfermes dans des règles, tu ne peux pas créer. Enfin, c'est pas possible. Il faut que tu sois très naturel, très détendu, très, très avec toi, avec toi-même. Eh ben, ce qui en sort peut être très mauvais. Enfin, je crois que c'est la sincérité. Enfin, il faut être ouvert.
Et pourtant, on a l'impression, lorsqu'on suit l'évolution de ta peinture depuis le début jusqu'à aujourd'hui, que tu vas vers une sorte d'assagissement. De mise en ordre. Un peu comme si tu t'imposais à toi-même, non pas des règles, mais une ligne de conduite plus serré.
Ce que je fais aujourd'hui, qui est beaucoup plus austère peut-être, non? Mais c'est moi. C'est pas une règle que je suis. C'est le besoin que je ressens actuellement, même, tu vois, dans ma propre vie. En fond, je sais pas, ce besoin d'aller vivre dans le désert, par exemple, que j'ai actuellement, bah, tu le retrouves là. dans ces tableaux. Mais c'est pas une règle. Je m'impose pas les règles. C'est l'expression de ce que je suis, je ressens, quoi. Et je crois que c'est à ça, enfin, qu'on tend toujours, enfin.
En somme, on pourrait parler à ton sujet de la peinture au sens où l'on a pu parler de la littérature, c'est-à-dire une exigence foncière d'honnêteté envers soi-même, sans souci d'être récupéré par la peinture officielle.
Oui, je ne suis pas peintre, je ne suis pas peintre, je ne veux pas avoir une étiquette de peintre. Je suis moi qui est en train de me bagarrer avec moi-même, de me trouver, de trouver un sens à tout ça. C'est déjà tellement difficile de comprendre, d'essayer de comprendre. Alors si tu vas te laisser flanquer une étiquette, je ne veux pas, moi je ne suis pas peintre. Je suis moi qui essaye de comprendre.
Et pourtant, tu fais la peinture.
Ben oui, mais c'est parce que c'est le moyen que j'ai pour ça. Pendant 2, 3 ans, 5 ans, tu sais bien, j'ai arrêté parce que j'avais un autre moyen qui était peut-être plus puissant pour comprendre, mais c'est toujours la même chose. Je veux comprendre. Mais.
Comprendre toi.
Oui. Alors, bon, ben, la peinture, c'est le moyen qui s'offre à moi, mais si demain il y a un autre moyen qui s'offre plus satisfaisant, plus puissant, si tu veux, ben, ce sera un autre moyen, je ne serai plus peintre, je ne ferai plus de la peinture.
1958-1959, c'est l'époque où s'amorce la réaction contre la peinture abstraite. La civilisation industrielle et urbaine engendre, à travers ses formes, une nouvelle sensibilité esthétique. Beaucoup de jeunes artistes voient dans la nature contemporaine, mécanique et publicitaire, le nouveau dictionnaire du vocabulaire plastique et se détourne de la peinture. L'objet tend à remplacer le tableau. Toi, Raquel, tu es à Paris, à cette époque-là. Est-ce que tu n'as pas été tentée, toi aussi, de laisser la peinture pour l'objet?
Non, pas du tout. D'ailleurs, pour moi, la question d'un choix ne se posait pas. Parce que cette contestation, hein, qui était portée à la peinture abstraite, moi, je la faisais aussi. Je la faisais dans la peinture, tu comprends, au lieu de la faire hors de la peinture. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a autre chose. Pour une grande part, il y a chez ceux qui passaient de la peinture à l'objet, il y avait la préoccupation de trouver des modes d'expression plus en rapport avec l'évolution technologique et intellectuelle de la société. Je sais pas moi, le besoin d'un art en rapport avec l'époque. Mais moi, c'est un problème qui ne m'intéressait pas directement. Parce que mon regard était plutôt tourné vers l'intérieur, voire clair à moi-même. En somme, si tu veux, les projets respectifs des avant-gardes de cette époque, pop art, art cinétique, nouveau réalisme surtout, etc. Et de la peinture abstraite, représentait deux directions de recherche différentes plutôt qu'opposées. Ça ne se situe pas sur le même plan. C'est pour ça que la question d'un choix ne s'est jamais posée pour moi. D'ailleurs, j'avais mes amis chez les antipeintres comme chez les peintres. Je me souviens, avec Lourdes Castro, Berthelot, on allait faire les poubelles, tu sais, parce qu'ils faisaient des collages avec tout ce qu'ils trouvaient dans les poubelles. C'était l'époque où on avait fait une revue, tu sais, d'art avec Christo, qui à l'époque faisait ses tonneaux. Voilà, la rue Visconti. Tout ça, ça me plaisait, ça m'intéressait, tu vois. Mais pas pour moi. D'abord, j'étais trop paresseuse. J'étais trop paresseuse pour découper des métaux. Enfin, j'aurais aimé faire ça. J'avais des tas d'idées, tu sais, farfelues, mais découper les métaux, coller, chercher. Non, c'était trop de travail pour moi. À part quelques collages antérieurs à 1960, je crois que je n'ai jamais éprouvé le besoin de recourir à un autre moyen que la peinture.
À partir de 1959, ce qui caractérise ta démarche picturale, c'est ta façon de traiter l'espace. Introduction dans le tableau de dissonance par rapport à la conception classique de l'espace peinture, apparition de courbes qui décentrent la composition, déhanchement des surfaces qui sont déséquilibrées par la juxtaposition de secteurs d'inégale densité, dislocation des masses par désarticulation, par éclatement ou agglutination.
Oui, l'espace, c'est très important pour moi. Je me souviens à cette époque, j'étais très très près, tu vois, de la pensée picturale de Saint Francis, de l'époque, hein. Je sais pas si tu te souviens ces tableaux qui faisaient espèce de taches de couleurs sombres et en dessous. Tu vois, on sentait notre espace. Tu vois, et ça m'attirait beaucoup parce que j'avais ce besoin, tu vois, d'ouvrir l'espace, de voir ce qu'il y avait au-delà de cet espace premier. Enfin, comme dans la vie, quoi. Tout a l'air bien ordonné, il y a des structures, ça a l'air. Il y a une logique, un principe, et en fait tu as des fissures qui te font entrevoir qu'il y a autre chose, et autre chose beaucoup plus profond, quoi. C'est la même chose, tu vois, le tableau, l'espace, c'est vraiment un mystère. Et d'où ce besoin de désarticuler, tu vois, le tableau, c'est. Ne donne pas un espace rassurant, tu vois. Parce que finalement, c'est inquiétant, tout ça.
1960, 1961. Aux États-Unis. Ce voyage aux États-Unis, sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il t'a apporté?
Ah, sur le plan personnel, ça m'a énormément apporté. Je sais pas, c'est la conquête d'une dimension, tu vois. Je suis arrivée à New York. J'ai fait tout le tour, enfin, je suis passée par Chicago. Je suis allée au Canada. J'ai traversé le Canada. C'était splendide, ces grands lacs. qui n'en finissait pas. Et puis toute la côte du Pacifique. Alors là, j'étais avec Koenig et je l'ai demandé de. Enfin, je l'ai converti à la marche à pied. On a fait ces plages immenses, immenses. C'est fantastique. Et puis ensuite, à San Francisco, je suis revenue toute seule. J'ai traversé l'Arizona, Texas, ces montagnes rouges là, c'est formidable. Et à New York, c'est aussi parce que c'est la ville, et pourtant l'homme peut vivre à sa dimension là. Les ateliers, tu comprends, là-bas sont très grands. On peut faire les toiles que moi je rêve de faire. Immense toile, je trouve que jamais les ateliers ne sont assez grands.
Et sur le plan de la peinture, ce séjour, qu'est-ce qu'il t'a apporté?
Bah, je connaissais déjà tous les peintres américains, donc il n'y a pas une grande révélation, seulement si, Rothko. Je n'avais jamais vu ces toiles. Je n'avais vu que des reproductions. Et à Washington, il y a une salle au musée d'art moderne où il y a, je crois qu'il y a 3 ou 4 toiles dans une seule salle. Et c'était extraordinaire. Je passais là-bas, je crois que je venais régulièrement. Et je restais des heures dans cette salle. Ce qui est formidable, c'est que ça. Je ne peux pas te dire comment ces toiles étaient peintes, tu vois, mais c'est ce qu'il apportait. C'était l'état dans lequel on se trouvait quand on restait dans ce silence, face à soi, face à lui. C'était très enrichissant. Vraiment, Rothko, pour moi, c'est une révélation.
Et puis, il y a ton exposition à Washington, avec des toiles que tu avais apportées avec toi et d'autres que tu as faites en Amérique. Alors de celle-ci, on peut dire qu'elle se situe bien dans la ligne de tout ce qui avait précédé, une écriture rapide, avec peut-être encore plus d'exubérance, d'aisance aussi, et de liberté dans la profusion des signes couleurs qui s'effilochent à travers l'espace. Pour aboutir même, dans certaines toiles, à une véritable dissolution des formes qui sont comme mangées par des zones lumineuses qui n'ont même plus de valeur chromatique. Après ce long séjour aux États-Unis, tu rentres à Paris. Mais tu n'y resteras pas longtemps. C'est l'époque où tu continues à voyager beaucoup. Tu vas au Portugal, tu voyages en Europe, jusqu'en Autriche, tu restes à Vienne presque une année. Et tu continues à travailler. Alors malheureusement pour cette période, il n'y a pas beaucoup de traces de tableaux que tu as un petit peu éparpillé. Mais heureusement pour 1963, il y a toute cette série de gouaches que tu as peintes en Corse et qui permet quand même de faire le point. Un nouveau pas a été franchi. On pourrait ici presque parler de dépouillement. Fonds à peine frottés qui laissent apparaître le support, matière crayeuse, rugueuse, formes dansantes et indécises. Cela est à la fois fruste et précieux, précis et fugitif, et tient davantage d'un passage que d'une présence. Partout, l'action picturale est décentrée, délicatement distribuée aux extrémités de l'espace. De là, on ne sait quelle impression d'inachèvement. Jamais encore le dynamisme centrifuge des compositions ne s'était exercé avec une telle aisance. La délicatesse des couleurs elles-mêmes y participe.
Oui, encore, c'est vraiment une parenthèse dans ma vie. C'est une période de très calme, sans angoisse. Je peignais très, très spontanément. J'avais retrouvé un état d'enfance. Je ne me souciais pas de ce que j'avais fait avant, après. J'étais très détendue. Je me souviens, j'avais la table avec les couleurs, et puis de temps en temps je me baissais et je ramassais de la terre, parfois c'était de l'herbe, une brindille, je collais ça avec ma peinture sur le tableau. Enfin, c'est vraiment une joie, une détente, cette période.
Mais ce moment privilégié de poésie ne dure guère. Alors que les formats redeviennent plus importants vers la fin de 1963, le début de 64, la couleur s'assombrit et cette tendresse qui a été entrevue semble céder devant une inquiétude et en même temps une violence qui vont en s'amplifiant.
Oui, bien sûr, la période de Corse est finie, cette parenthèse, tu vois, où j'étais si près de la nature et en dehors de tous les problèmes, ça s'arrête. Je me retrouve à Paris, dans le système, de nouveau, avec un bouillonnement, tu vois, de questions, d'angoisse, Et là, je remets même en question cette période de Corse, tu vois, ce paradis artificiel finalement de Corse. Je me retrouve en plein dans l'absurde. Et c'est à ce moment-là que je fais toutes ces toiles, toutes ces études d'ailleurs noires, tu vois, avec toutes ces formes. Qui vont donner après, qui annoncent la
1964, Paris. Avec les rouges et noirs, l'élégant raffinement de l'année précédente est balayé par le déferlement dramatique des signes rouges, noirs et blancs. Haute pâte des figures, torsion, J giration. Pulsion. Explosion romantique d'une pensée qui, abandonnant toute retenue apparente, exalte sa véhémence dans une écriture puissante, grave, parfois austère, souvent tourmentée. Et pourtant, c'est en présence d'un faux baroque que nous nous trouvons. Le laisser aller à l'automatisme gestuel est partiellement infirmé par une distanciation constante prise par le peintre par rapport au jeté primitif. Le premier exposé est en réalité repris, modifié, corrigé par grattage, surimpression, lacération. La force centrifuge s'exerce ici plus que jamais, non plus en éludant les figures, mais en les formulant pour les désarticuler et les briser. Débouche sur un arrêt quasi total de France, où elle vient chercher lumière et isolement. Période de décantation au cours de laquelle seuls des dessins, quelques rares toiles et une suite tout à fait inattendue d'aquarelles ponctuent de loin en loin le silence. Villefranche-sur-Mer. Une nouvelle période est marquée par l'expérience, antinomique au regard des rouges et noirs, d'un géométrisme sans contrainte. Certains traits d'écriture, utilisés jusque-là, disparaissent de la peinture de Raquel et, avec leur élimination, l'époque du lyrisme semble définitivement close. Disparition des épaisseurs, raréfaction des lignes courbes et des signes. D'autres caractères, par contre, s'affirment. Ouverture des compositions, fluidité de la matière, sobriété des moyens. Surtout, c'est à présent la couleur, non modulée, qui est pleinement chargé de véhiculer l'essentiel de la pensée picturale. Les secteurs chromatiques, étirés en bandes, ou bien juxtaposés en carrés, annonce l'éclosion proche de 1970, à la fois synthèse et dépassement de tout ce qui avait précédé. Après le géométrisme qui avait constitué une sorte d'ascèse, recherche de l'intensité par la suppression du superflu, la fin de l'année 68 et 1969 voient le retour à une courte période de lyrisme, très contrôlée il est vrai, avec à nouveau le geste et les signes, souvent larges et noirs, qui tranchent sur la couleur uniforme de l'espace. Nice. Les expériences antérieures ont amené le peintre à une pensée affinée et renforcée tout à la fois. De simples taches de couleur qui jouent librement selon leur plus clair pouvoir d'expansion rythmique, surgit l'heureux équilibre entre le dépouillement extrême des formes et le plein épanouissement de l'espace couleur. Une simplicité complète, coûtant rien moins que tout. On pense aux lignes de Camus, c'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert. Mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre.